Bien, qui commence tout de suite. Et on commence cette heure de foot en accueillant eh bien, notre chroniqueur maison dans le jeu de la prolongation. Salut Alex Demeter.
Salut Blaise.
Merci d'être avec nous ce soir. On va évidemment décrypter l'actualité footballistique avec ces Champions Playoffs qui ont donc commencé ce week-end. Il y a d'ailleurs un match en cours actuellement. Ça joue à Genk entre Genk et l'Union. 1-0 pour les Limbourgeois. On aura le résultat d'ici la fin de l'émission. Donc on pourra le décrypter. Mais
Il reste un petit quart d'heure, plus prolongation. Enfin, plus temps additionnel, but Taroko Daré en première mi-temps et l'Union méritait un pénalty là tout de suite qu'ils n'ont pas reçu. Donc le suspense est entier.
À suivre. Et donc on y reviendra dès que c'est terminé. Mais oui, je le disais, on va peut-être aussi avoir un peu de temps pour parler de cette fameuse trêve internationale qu'on a vécue la semaine passée avec un bilan plutôt mitigé pour nos diables, un match nul et une victoire contre l'Irlande et deux matchs nuls en fait, oui, un but partout et 0-0 face à l'Irlande et face à l'Angleterre.
Je crois que tu as éteint ta TV 10 secondes trop tôt.
Oui, exactement.
Tu n'as pas regardé
exactement, le but à la 95e minute de Jude Bellingham qui nous fait... Bon, qui nous embête un peu, mais bon, c'est les matchs amicaux et pas de quoi s'inquiéter pour nos diables, en tout cas pour l'instant. Alors, comment on va faire ça? On va commencer par le haut du classement et c'était donc Anderlecht qui s'est imposé. Anderlecht, alors je vais revérifier le score pour le coup là.
Si, 1-0, ouais,
un but à 0, voilà. Anderlecht donc qui s'est imposé, c'était samedi face à l'Antwerp qui prend un carton rouge dans ce match, un but de Kylian Sardella d'ailleurs qui a été élu homme du match de ce match, Kylian Sardella, son premier but en professionnel, 95e rencontre, premier but, fallait que ça arrive.
C'est un défenseur aussi.
C'est un défenseur.
Pour sa défense, ouais. Voilà.
Il avait dit, je pense, au micro d'Eleven après le match, qu'il aurait bien aimé attendre son 100e match pour planter, mais bon, on va pas se plaindre, homme du match, un but à 0, c'est lui le marqueur.
Pas de quoi faire la fine bouche, j'ai envie de dire, quand tu marques le but décisif pour le premier match qui pourrait vraiment lancer tes playoffs. Donc
ouais, justement, c'est donc de ça dont on va parler. Anderlecht a super bien lancé ses playoffs. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi?
J'ai envie de dire qu'Anderlecht arrive au bon endroit, au bon moment, avec une certaine maturité, avec une certaine force et surtout avec... J'ai envie de dire une certaine audace et un peu d'attitude roublarde. Ils savent comment faire tourner le match, ils savent comment irriter leur adversaire, ils savent choisir leur moment. On l'avait vu à Bruges, qui était leur dernier gros match avant le début de ces playoffs. Toute cette roublardise s'est traduite à Bruges aussi dans une victoire, ce qui n'arrivait pas vraiment souvent les dernières années pour les Mauves. Et face à l'Antwerp, c'est la même chose. Cette carte rouge... Cette patience face à l'Antwerp qui joue en bloc très bas, l'Antwerp était clairement venu pour prendre un point. Et Anderlecht a réussi à tirer son épingle du jeu.
On leur avait reproché à juste titre ces dernières années ce manque d'expérience. Il faut dire que c'était une équipe relativement jeune. C'est d'expérience qu'ils ont engrangé ces dernières saisons, tu penses? Ils ont récupéré Kasper Schmeichel, qui est un gardien d'expérience, même si c'est pas le meilleur gardien du championnat. Mais ça, c'est quand même un vainqueur de championnat anglais. Donc, il a dû leur apporter une certaine sérénité aussi, j'imagine.
Oui, mais disons, les dernières années, tu as eu trois Anderlecht. Tu as eu l'Anderlecht Cook Van Azebroek, j'ai envie de dire. Où on avait très peu à investir, mais où on a été chercher des joueurs d'Ostend qui n'étaient pas bons assez, des Makarenko qui étaient venus de Courtrai. Enfin, tout le monde se regardait en chien de faïence en se demandant qu'est-ce qui se passe à Anderlecht. Il y a eu cet Anderlecht-là, puis il y a eu l'Anderlecht Company avec le fameux projet.
Trust the process.
Le process. les jeunes, les Sardella, les De Bast, y a un tas de jeunes, on ne sait même pas les citer, qui étaient entourés de certains joueurs, Edmecha, Kouamé, qui est à la Fiorentina aujourd'hui, le réseau Compagnon, on va dire. Et il y a l'Anderlecht d'aujourd'hui, l'Anderlecht, j'ai envie de dire, Danish Touch, Fred Berg-Grimmer. Ouais. Où il y a les jeunes qui ont eu le process et qui, comme tu dis, Sardella a 95 matchs en D1.
Ouais, c'est fou.
Pas rien.
C'est fou.
Et pourtant, on le considère toujours comme un bébé. Idem pour Amoudzou, idem pour De Bast. Il y en a encore un qui m'échappe. Mais en attendant, tous ces joueurs ont pris du galon, ont pris de l'expérience pendant 2 ans sous Compagnie. Et aujourd'hui, sont des valeurs sûres de D1 belge, j'ai envie de dire.
Ouais, bien sûr.
Tu rajoutes à ça, dans chaque ligne, un joueur expérimenté, un Schmeichel, un Vertonghen, un Hazard, un Dolberg, et tu as une recette qui va t'amener très loin et très haut.
Justement, c'est une question que je voulais te poser. Qu'est-ce que tu tires pour l'instant comme conclusion sur la saison de Casper Dolberg ? Parce qu'il est quand même arrivé comme un joueur plutôt reconnu en Belgique. Cet été, qu'est-ce que t'en penses ? Il a apporté ce qu'il devait apporter ?
Qu'est-ce qu'il devait apporter ?
Des buts ?
De l'expérience.
De l'expérience.
C'est surtout de l'expérience. Anderlecht a changé. Je viens de parler des trois Anderlecht. Avant ces trois Anderlecht, il y a eu l'Anderlecht René Weiler, qui était un football cadenassé, très helvète, parce qu'il est suisse lui-même. Il avait des résultats et il a été mis dehors parce que le foot n'était pas assez bien et il avait des vrais bûcherons parfois dans son équipe, des Theodor Tchik, des Vranies, des joueurs pareils, ils avaient la technique d'un pot de fleurs. Donc tu ne savais rien faire, mais pourtant il a été champion comme ça. Ici, Riemer, il est décrié aussi, mais force est de constater que si ça reste comme ça, ce soir il est premier du classement.
Ouais, et tu penses, enfin, tu les verrais champions toi ?
Je pense que tout est présent, en tout cas pour l'être.
Tout est possible.
Tout est présent, tous les ingrédients sont présents pour faire une bonne recette. Après, si ton chef coq brûle la casserole...
Ouais, c'est sûr.
Et non, les playoffs, c'est la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain et encore moins celle d'après-demain. Donc, on est à la première journée, les cartes sont tout à fait relancées sur la table pour l'instant, en tous les cas pour les deux premiers. Et pour la suite aussi, pour la troisième place, parce que Genk passe troisième virtuellement. La semaine prochaine, il y a de nouveau deux, trois autres gros matchs. La semaine d'après encore. Et finalement, si ça se trouve, aujourd'hui c'est ex-aequo. Dans 3 semaines, il y a une équipe qui a plus 6 ou plus 4. Et si ça se trouve, c'est toujours ex-aequo. C'est très, très, très compliqué dans les playoffs de tirer un fil rouge ou une ligne rouge, que ce soit dans la forme, que ce soit dans le résultat, que ce soit dans le caractère. C'est très, très dur.
Ouais. Et donc, c'est plutôt une surprise quand même, cette pour l'instant, victoire de Genk face à l'Union. Et donc, ça permet à Anderlecht d'être premier ex aequo et donc de mettre la pression sur l'Union qui est en train de ne pas la gérer.
Je propose qu'on attende encore 10 minutes.
Oui, c'est vrai.
Avant de tirer une conclusion.
Oui, Cameron Puertas disait dans la DH samedi, du coup, on doit envoyer un message à la concurrence dès ce lundi. Bon,
il n'a pas dit quel message. Ça peut être un message que c'est porte ouverte et que c'est la fête.
Exactement, oui. Donc, pour l'instant, on va attendre ces 10 minutes et on reviendra sur l'Union après. Je ne sais pas, comment est-ce que tu prévois, comment est-ce que tu veux faire ? On fait d'abord les playoffs 1 et puis après on descend ou on évacuera le sujet standard avec notre invité Steve à partir de 20h30. Donc, on va parler du match de cet après-midi. Le match de... ce midi même, c'était tôt dans le... C'était à 13h30, je pense. Le derby
Bruges... On a changé l'heure, hein, tu sais.
Oui. Je serais pas là sinon. C'était le derby brugeois, un but partout entre les deux équipes. Autre match nul.
Troisième match nul consécutif entre les deux équipes.
Troisième match nul consécutif entre les deux. Et le club, on rappelle donc Denke qui marque le premier but à la 32e minute, puis Olsen qui égalise à la 93e plus 3.
Non, c'était un peu avant quand même.
Avant 83e alors. Ouais.
Mais il est encore à l'heure d'été aussi, à l'heure d'hiver aussi, je pense.
Mon application de résultats n'a pas les bonnes minutes. Ce qui fait que le club de Bruges est quatrième avec 27 points et le Cercle est sixième et dernier de ses playoffs 1 avec 25 points. Ton avis sur ce match ?
Mais je l'ai vu de la première à la dernière minute. Et bon, c'est... Le Cercle a commencé de manière furieuse. Typiquement Cercle à domicile, cette grinta, cette envie, cette pression, les joueurs qui couraient pour trois. Et on n'a pas vu ça en deuxième mi-temps. Et en première mi-temps, c'est déjà presque miraculeux que ce soit 1-0, parce que le Cercle a eu cette occasion sur coup franc. Encore une grande discussion hors-jeu, pas hors-jeu, des deux protagonistes, Utkus et Denke, donneur d'assist et buteur. Mais le club de Bruges a à chaque fois buté sur Warleson. Et en deuxième mi-temps, le club a vraiment pris l'ascendant sur son adversaire et était vachement plus fort. Tu as eu trois balles sur la latte, tu as eu Warleson qui a sorti deux arrêts exceptionnels et tu as eu d'autres occasions ratées. Et donc le club de Bruges a vraiment raté l'occasion de prendre des points pour se rapprocher du duo de tête, malheureusement. Surtout quand on connaît la suite, c'est une occasion ratée.
Saison un peu dans l'anonymat du club de Bruges.
Dans l'anonymat, non. Dans un cirque, j'ai envie de dire. Ouais. C'est triste, mais ce qui se passe de nouveau, Ronny Deyla a été limogé pendant la trêve aussi. On ne l'a pas encore dit dans cette émission, mais Ronny Deyla s'en est allé. Nicky Ayen, l'ancien défenseur de Saint-Tron, qui s'est reconverti en coach, qui était à Club Next cette saison, qui a fait de bons résultats avec Club Next. Ils ont été longtemps prétendants au top 6 de la D1B. Le brave Nicky Ayen, maintenant, il a repris le flambeau de T1. Avant d'accueillir un autre entraîneur l'année prochaine, ça peut être sujet d'une belle émission aussi. Et en première mi-temps, j'avais l'impression qu'il y avait encore cette patte Deyla, il y avait encore ces hésitations, il y avait encore ce doute. Et en deuxième mi-temps, il n'y était plus. Donc il s'est passé quelque chose à la mi-temps dans le vestiaire. Il n'y avait plus ce doute, il y avait cette envie d'aller de l'avant, cette envie de jouer au football, de longues transversales dans les pieds, des dribbles, des actions. Et le Cercle n'a pas touché un ballon de toute la deuxième mi-temps, en fait. Et même en fin de match, on sait qu'il y avait cette crispation, ce traumatisme presque de fin de match d'encaisser. C'est vrai que j'étais avec un pote, on s'est regardé à la fin, on n'y a même pas pensé. Et les joueurs non plus sur le terrain. Donc il y a une Nicky Ayen touch, j'ai envie de dire, qui s'est démontrée aujourd'hui. Mais comme on a dit là tout de suite avec les playoffs, on va attendre, je pense, quelques matchs pour voir si ça se traduit vraiment. À commencer pour la semaine prochaine, Anderlecht et Bruges va enchaîner. Donc Anderlecht, PAOK Salonique, Antwerp, PAOK Salonique. Donc c'est pas triste comme programme dans les deux prochaines semaines.
C'est la meilleure mi-temps du club pour toi cette saison ?
C'est une des meilleures. La deuxième face à Osasuna, tout le monde l'a oublié, mais tu es mené 0-2 après une victoire 0-1 en Espagne. Donc tu es éliminé de la Conference League. Et à l'envie, à la hargne, au courage, tu vas chercher ce 2-2 face au 7e d'Espagne, qui est quand même pas rien du tout. Donc non, t'as eu de très bonnes mi-temps, t'as eu d'excellents matchs. Mais ici, depuis deux mois, oui, effectivement, c'est la meilleure.
21 tentatives quand même pour le club.
Oui, c'est beaucoup. Hein.
C'est beaucoup, ouais. C'est dans le sens de Nicky Ayen qui a donc déclaré 21 tentatives, c'est beaucoup. Match très intense et engagé selon lui, c'est à peu près ce que tu nous disais. La deuxième mi-temps, oui, c'est... En fait, on a l'impression que dans ces playoffs, on le disait sur Anderlecht, tout est possible. Et Bruges qui fait une saison pourrie pourrait se retrouver top 2, peut-être avec de la chance champion. Enfin, c'est...
Je t'avoue que je ne pense pas du tout. Le top 2, pour moi, il est connu.
L'Union Anderlecht.
Sachant que c'est 35-35-27. Donc, ouais, bon, ouais. Ok, il reste 9 matchs. Rattraper 9 points parce que Bruges n'a pas l'avantage des demi-points.
Oui.
Rattraper 9 points en 9 matchs sur 2 équipes, ça me paraît quand même incroyable. Surtout que tu as déjà perdu 2 points très bêtement aujourd'hui contre l'équipe la plus faible sur papier de tous les playoffs. Donc.
Ouais, et ils ont pas l'air de... Enfin, là, pour le coup, l'Union est plus que tenue en échec et perd contre Genk. Mais on n'a pas l'impression que ce soit l'Union ou Anderlecht qui sont prêts à lâcher beaucoup de points dans ces playoffs. Ils ont l'air plutôt solides.
Ben, il faut voir, voilà, la vérité d'aujourd'hui est celle-ci.
Oui, bien sûr, c'est toujours...
La semaine prochaine, Anderlecht se déplace au club de Bruges et l'Union accueille le Cercle. Donc, en une fois, tu peux te retrouver de nouveau à plus 3, moins 3, ex aequo. Ça dépendra un peu de la perspective, mais je pense que ça va quand même encore être très palpitant, ce genre de cette mini compétition.
Ouais, pour revenir un peu à Anderlecht, toujours dans cette DH de samedi, le coach d'Anderlecht d'ailleurs, qui avait un. Reimer, pardon, qu'est-ce que j'ai d'ailleurs, a accordé un entretien extrêmement intéressant. Je ne sais pas si tu l'as lu.
Non.
Où
Mais
en
tu vas nous
fait.
présenter quelques passages.
Oui, bah. Comme, en fait, moi, ce qui m'a. En fait, c'est le titre de l'article, donc forcément, ça accroche aux yeux. Mais il dit: Mon sort n'est pas lié à Fred Berg, alors qu'on avait quand même l'impression que c'était un ticket, les deux.
C'est deux Danois en tout cas, mais
Ouais.
son sort n'est pas lié parce qu'il parle du Milan AC.
Oui, c'est ça.
S'il devait partir au Milan AC, j'ai pas lu, mais j'ai eu écho en tout cas. Oui, non, leur sort n'est pas lié. C'est comme beaucoup de T1, T2, entraîneurs des gardiens, préparateurs physiques, team manager. Ils se trouvent, ils se séparent, ils se retrouvent, ils se séparent, ils se re-retrouvent sur un espace et sur une période de 10 ans. Donc oui, leur sort n'est pas lié, mais de toute façon, vu ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui à Anderlecht, ils vont encore se retrouver ou ils vont rester ensemble quelque temps.
Ouais, bien sûr. Et j'allais dire quelque chose dont j'ai oublié, donc c'est pas grave. Aussi. Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. On parlait de cette touche danoise. Est-ce que tu as vu qu'Anderlecht va jouer avec un maillot avec le drapeau du Danemark sur leur logo?
Oui, c'était le poisson d'avril du jour.
Ah, c'était le poisson d'avril du jour.
Je pense, en tous les
Ok.
cas.
Bah, je me suis fait avoir. Alors, j'étais comme. Pour le coup, j'étais pas en jour férié aujourd'hui, moi. J'ai voulu aller faire des courses tout à l'heure et tout était fermé, évidemment.
Attention, il y en a d'autres dans la presse qui circulent comme
Oui,
poisson d'avril.
je vais faire attention. Vivement que ce soit fini,
Mais
c'est.
c'était pas mal d'Eleven, ce genre de
Ouais.
petites blagues subtiles, presque plausibles, on va dire, mais c'était.
C'était une blague.
C'est mignon. Après, Danderyd, t'as un passé aussi scandinave, danois, avec Morten Olsen. Donc il y a quand même une. C'est pour ça qu'ils sont tellement bien acceptés à Anderlecht aussi, parce qu'il y a ce passé. Ils viennent de Russie, ou ils viennent même de Grèce ou quoi que ce soit. Je pense que l'accueil aurait été beaucoup plus hostile.
Ouais.
Malgré les résultats.
Et il récupère Thomas Delaney le
Le
week-end prochain,
Danois.
le Danois, ouais. Mais qui lui pour le coup est un, on sait pas trop dans quel état il est, mais qui lui pourrait être un certain atout pour les playoffs.
Je crois que même Delaney sur une jambe et en béquille,
Ouais.
ça reste un atout. Ça reste même un atout dans le vestiaire, il faut pas oublier.
Ouais.
Tous ces joueurs, Schmeichel, Delaney, Dolberg, Vertonghen, Torgan, j'en oublie encore certains, ils ont tous cette expérience au plus haut niveau. Ils savent ce que c'est de gagner des titres, ils savent ce que c'est d'aller au charbon, ils savent ce que c'est de canasser un match. Il y a cette expérience que d'autres équipes de Playoff 1 n'ont pas.
Ouais. Et en plus, Zeno De Bast a été titulaire avec les Diables la semaine dernière.
Oui.
En plus, pour apporter encore un peu d'expérience, c'est quand
C'est
même.
un nice to have.
Oui.
Mais il aurait mis qui?
Bah non, mais en fait, moi j'ai eu le débat avec des potes et c'est vrai qu'on s'est posé cette question, à part. Enfin, il n'y a personne. Ce poste est complètement déserté en équipe nationale.
Ouais,
Et donc,
malheureusement.
ouais.
Non, tu en as d'autres qui peuvent. T'as Fast,
Ouais.
Théâtre, ils savent jouer là aussi. Mais voilà, je pense que de base, t'as un certain talent. On a lui de le développer encore plus. Mais il peut encore apprendre beaucoup de l'expérience de tous les joueurs qu'on a cités là tout de suite, en tout cas.
Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc ben là on a fait les trois matchs de playoff 1.
Deux et demi, on va dire même.
Deux et demi, oui. Oui,
Allez.
pour l'instant,
On est
on doit être à la fin
dans
du
les arrêts de jeu, toujours
on est dans
1-0
les
pour
arrêts de
Genk.
jeu. Toujours 1-0 pour Genk, l'Union qui pousse pour égaliser. La 92e minute pour être plus précis. Et donc Genk qui mène toujours un but à 0, but de Haro Kodare à la 27e minute. Donc pour l'instant, on le rappelle dans l'heure qu'il est, à l'instant où on parle, Anderlecht et l'Union sont à égalité. Anderlecht qui est devant au goal average. Alors, dans les autres matchs, donc, on a dit on parlera du standard dans 10 minutes à 20h30. On a eu Louvain-Malines et Saint-Tron-Westerlo. Alors, bon, c'est peut-être pas les matchs qu'on a le plus regardés,
Pas regardé du tout,
qu'on n'a pas
soyons francs.
regardé du tout. Saint-Tron qui gagne 2 buts à 0 contre Westerlo, un doublé de Stuykers à la 8e et la 84e minute. Et puis, dans l'autre match dont je parlais, qui était donc Louvain-Malines. Louvain-Malines, ça c'était samedi. Et Louvain-Malines, ça s'est terminé sur une victoire de Malines, réduite à 10, 2 buts à 3 face à Louvain. Louvain qui évoluait donc à domicile, donc l'état du classement, c'est donc la Gantoise qui reste première de ces playoffs. J'ai oublié
Europe Playoffs.
Europe Playoff, voilà. Ce changement de nom m'avait un peu échappé. Ouais, avec Malines derrière à un point, puis Saint-Tron et le Standard. Donc voilà à peu près l'état de ces Europe Playoffs et l'état aussi d'en haut. Avant de parler du.
Il y a aussi des playoffs 3, précisons-le, qui eux n'ont pas encore débuté,
Qui ont.
car ils s'alignent un petit peu avec la Challenger Pro League, donc c'est-à-dire la division 2, afin que les deux compétitions terminent en même temps et que la finale puisse se jouer en même temps. La finale, j'entends par là, le vainqueur entre la place 3, 4, 5, 6 des playoffs de Challenger Pro League division 2 et le 14e de division 1A.
Qui font un mini championnat à 4.
Ils font chacun un mini championnat à 4. Donc 13, 14, 15, 16 pour ne pas descendre. 16,
Ouais.
15 descend. 14 joue le barrage. Et en division 2, 3, 4, 5, 6 jouent ensemble pour déterminer le vainqueur de ces mini playoffs. Et les deux, le 14e et le vainqueur de ces playoffs s'affrontent pour une nouvelle place en D1. Donc autant dire que ça va être un match palpitant.
Et là, on en est donc en Challenger Pro League à le Berscott, Lommel, Dender et Deinze, qui sont donc les quatre premiers pour
Mais si vous regardez les six premiers, c'est vachement
les six
intéressant.
premiers.
C'est vachement intéressant comme championnat.
Et donc là, Club Next qui s'est incliné face à Dender et le Berscott qui a gagné face aux jeunes de Genk. Et donc les deux derniers, enfin ceux qui complètent le 5 et le 6, c'est Palroisden et Zult Waregem. Voilà. Ouais, ma.
Wargame qui avait beaucoup investi pour monter, pour être champion, ils sont sixième. C'est pas
Ouais.
terrible. Ça, avec les Inogano, les Jelle-Vossen, les Vincent Evrard comme coach, c'est.
Ouais. Et puis Zult est quand même plus habitué à jouer en D1 ces dernières années plutôt que végéter au milieu de la Challenger Pro League. Et puis c'est quand même un club un peu entre guillemets historique de notre championnat, donc ça nous ferait plaisir de les revoir. Je dis
Je
entre guillemets.
pense que tu vas revoir le Berscott plus rapidement.
Ouais.
Et Lommel, à mon avis aussi.
Le Berscott qu'on attend sûrement donc en montée. Eux aussi pareil, ils font un peu l'ascenseur ces dernières années. Mais donc oui, ils vont sûrement remonter. Le match est terminé?
Non, mais
Non?
Christian Burgess s'est pris une carte rouge.
Ah, et ça c'est pas forcément génial pour l'Union
Surtout
à
si c'est une rouge
l'approche.
directe. Ouais.
Ou surtout si c'est une rouge directe, il n'y a pas énormément de matchs et les rouges directes c'est souvent deux ou plus, donc on verra. On verra. Il est à 20h25 minutes sur Radio Judaïka. Vous êtes dans On joue la prolongation. Voilà, on décrypte un peu là cette semaine, enfin ce week-end de foot, de championnat belge. Et cette semaine aussi, on parlera du Standard à 20h30 avec Steve Gris, qui nous fera le plaisir d'être en ligne avec nous pour parler de la situation désastreuse dans son club. Défaite 5 buts à 1 ce
Mais ça
week-end.
faisait pas du bien.
C'est pas agréable. Mais d'abord, du coup, avant de retrouver Steve. La Belgique a joué
Deux amicaux.
Deux amicaux contre l'Irlande et l'Angleterre la semaine dernière. L'Irlande, c'était samedi et l'Angleterre, c'était mardi soir. Est-ce que tu as vu les matchs? Qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, j'ai vu l'Angleterre, j'ai pas vu l'Irlande.
C'était pas des matchs de foot pour moi. Pour moi, c'était plus un show orchestré pour toutes les équipes européennes, pour toutes les équipes mondiales en fait, en tous les cas qui sont chez les trois équipes entières, Nike, Adidas,
Oui,
Puma. C'était plus
c'était
un catwalk
montrer les nouveaux
pour
maillots.
montrer les nouveaux maillots pour faire des ventes. Parce que bizarrement, les équipes, à chaque fois, ils ont porté leur maillot extérieur et leur maillot domicile. C'est fou comme ça, le hasard est bien fait.
Bah écoute, j'avais très peur lors de la. Enfin, le moment où ils ont sorti ces maillots bleus là en hommage à Tintin. Et puis je trouve que en fait les joueurs le portaient pas trop mal. Je sais pas ce que t'en as pensé toi.
Je trouve, mais le maillot est
Le
beau.
maillot est
Je
beau.
trouvais le maillot très beau parce qu'on avait déjà, il était déjà sorti, il avait déjà
Oui.
leaké, on va
Ouais.
dire, là, il y a 10 mois de cela. Tout le monde l'associe un peu à la Grèce, ce qui n'est pas faux parce que c'est un bleu fort similaire.
Ouais.
Et donc, je trouve le maillot, je le trouve très réussi. Il y a vraiment des détails dans le maillot qui sont
Ouais.
vraiment très très jolis. Mais moi, c'est l'association avec du brun. Qui
Ouais,
certes
c'est
fait
bizarre.
Tintin, mais voilà, à ma connaissance, aucune équipe n'a mis ça. Et je trouve ça particulièrement laid. Alors, ce maillot bleu avec un short blanc, je pense qu'il est magnifique.
Ouais, c'est vrai que le short blanc, on aurait pu y penser.
Parce
Bon.
que Adidas a aussi une fois les trois lignes sur le côté, on le sait. Tu peux faire des trois lignes dorées, tu peux faire trois lignes brunes. Tu pouvais faire un clin d'œil sympa vers Tintin ou t'avais qu'à le faire molletonner comme Milou si tu veux. Mais ce brun, ça me dérange un petit peu. Après, les joueurs le portent bien.
Ouais.
Tu vois les photos, ça donne bien parce que c'est Wembley derrière aussi. Mais voilà, ce short, c'est spécial. Je vois ça comme ça.
Pour revenir sur les matchs, ouais, tu l'as dit, c'était une démonstration un peu. La Belgique a joué son match contre l'Irlande avec une équipe B, on peut le dire. C'était ennuyant à souhait. D'après les analyses qui ont suivi. Et puis, l'Angleterre, on domine tout le match, mais bon, moi, je ne nous ai pas trouvé très rassurant non plus avec une équipe d'Angleterre dont je ne comprendrai jamais qu'elle ne soit pas meilleure que ce qu'elle est actuellement avec les joueurs qu'elle a sur son terrain. Mais bon, ça, on verra à l'Euro ce qu'ils ont dans le ventre.
Tu sais, par le passé, il y a eu des générations
Ouais,
Beckham, Scholes,
ouais.
Shearer, Owen. Qui était vraiment plus qu'exceptionnel, et ils n'ont jamais gagné quoi que ce
Ouais.
soit.
Ils sont clairement maudits, ces
Voilà.
Anglais, ces Three Lions, comme on les appelle. Autre match qui ont été joués, comme ça, pour dire la France qui s'incline face à l'Allemagne. Une Allemagne qu'on jetait au Lyon il y a
Aux trois
encore.
lions.
Au 3 Lyon, pas mal. Qu'on jetait au Lyon. Enfin, depuis quelques temps maintenant, moi j'ai trouvé une Allemagne extrêmement séduisante. Je sais pas si tu as vu le match, je sais pas ce que tu en as pensé.
J'ai pas vu le match, mais en fait, ce qui m'a fait rire, c'est que tu as l'Allemagne et l'Autriche qui commencent leur match en marquant exactement un but très similaire.
J'ai pas vu
Après
ça.
quelques secondes, ils s'infiltrent dans le camp de l'adversaire, ils tirent de loin, ils marquent. Et
Ouais.
l'Allemagne et l'Autriche l'a fait. Donc, je soupçonne que quelque part dans un championnat de basse division autrichienne ou allemande, un joueur ou une équipe a fait ça
Ouais,
et qu'ils ont été chercher la sauce là-bas. Mais
ouais, ouais.
c'est très cocasse que ça arrive le même jour, au même moment,
Avec
le
des
même but.
sélections relativement proches.
Voilà. Donc, je trouvais ça assez rigolo. Mais pour le reste, bon, l'Allemagne doit se prouver. L'Allemagne jouera à domicile. L'Allemagne a une fierté aussi à défendre. Donc, pas le choix.
On verra donc. Bah oui, ça c'est l'Euro hein, qui s'approche petit à petit. Là, on est.
Va faire un petit détour par Genk, peut-être, mon cher Blaise.
Faisons un détour par Genk. Le match est-il
Le
fini?
match est
Le
terminé.
match est
1-0
terminé.
pour les
1-0.
Limbourgeois. Grosse surprise quand même.
Ouais.
Parce qu'ils jouaient avec pas une équipe B, mais en tous les cas, ils avaient beaucoup d'absents après leur vente à la trêve aussi de certains pions essentiels. Et finalement, ils l'emportent face à l'Union. Donc, petite surprise. Le premier qui perd du sixième. Et du coup, le Anderlecht revient à égalité, comme tu l'as dit, 35 points
Ouais.
chacun. Et surtout, l'Union devra se passer de Burgess qui a balancé le ballon dans la
Oh.
figure d'un adversaire sur une touche en le faisant exprès. Donc,
Bon,
ça ne sera pas une journée de suspension.
ça c'est ça ils vont pas le laisser passer les instances, on connaît, ils sont relativement sévères sur ce genre de coup de sang de la part des des joueurs de football. Oui, donc oui, un peu, ouais, grosse surprise quand même. On était, non, moi j'étais vraiment pas prêt. Ce week-end encore, plusieurs déclarations qui des deux joueurs qui assumaient enfin leur statut de favori, qui disaient pouvoir y arriver. Et gros coup dur dès le premier match, quoi.
Tout à fait. Voilà. C'est la fin de cette première partie de Jupiler Pro League, j'ai envie de dire.
Ouais. Et c'est génial parce que là, on commence du coup avec, avec deux, enfin une première journée de Playoff 1 qui en dit long et qui nous offre peut-être. Eh bien, de quoi nous régaler pour ces prochaines semaines. Il est 20h31 sur Radio Judaïka. Vous écoutez, on joue la prolongation. Merci à tous de nous suivre. On va faire rapidement une petite pause musicale, le temps de retrouver notre ami Steve Gris. Eh bien, tout de suite, c'est Amy Winehouse Rehab. est de retour sur Radio Judaïka pour l'émission On joue la prolongation, chose promise, chose due. On accueille un invité de marque, Steve. Salut, merci d'être avec nous.
Être d'honneur, bonjour à tous.
Alors, Steve, on en parlait hors antenne. Tu as pu voir le match entre l'Union et Genk. C'était à Genk, on le rappelle. Donc, victoire 1-0 des Limbourgeois face à l'Union. Tes premières sensations.
Bah, écoutez, à défaut d'être un magnifique match, c'était un match intense, hein. Ça, on peut dire que ceux qui se posaient la question de savoir dans quel état d'esprit Genk abordait ses playoffs, ils abordent ses playoffs certains ont pu le penser, c'est-à-dire sans hésiter, en n'ayant absolument rien à perdre et en étant vraiment extrêmement motivés, c'est-à-dire qu'ils vont prendre match après match et voir jusqu'où ça va les mener. Et dès le coup d'envoi, j'ai trouvé cette équipe de game extrêmement séduisante. Vranken avait mis un dispositif qui n'était pas totalement habituel, puisqu'il avait fait jouer avec quelqu'un de nous, il avait fait jouer Aydelach, qui a joué l'ancien Anderlecht, qui jouait très très peu. Et bien honnêtement, ce milieu de terrain, en tout cas en première mi-temps, et je dirais encore dans les 10 premières minutes de la seconde mi-temps, avant que l'Union mette le turbo, a vraiment déjoué l'entrejeu et la défense de l'Union. Et ils ont été techniquement et physiquement très très performants. Ils ont complètement asphyxié, je dirais, l'entrejeu de l'Union, en tout cas en première mi-temps. Et donc Genk n'a pas du tout volé sa victoire et ça va être un poil à gratter sur lequel il va falloir compter, à mon avis, pendant tous ces playoffs.
Donc
évidemment, maintenant ils ont déjà retourné, si vous voulez. En fait, moi, je n'étant pas du tout un partisan des playoffs. Voilà ce qui arrive évidemment avec ces playoffs, c'est qu'on a beau travailler et faire des matchs le dimanche, le samedi, depuis le mois de juillet jusqu'au mois d'avril, ben voilà, il suffit d'un match au premier match des playoffs pour déjà retourner toute la situation qui était pourtant la dynamique du début de saison. C'est les playoffs, les gens aiment parce que ça crée du spectacle, mais évidemment, ça change évidemment tout maintenant. Et il va falloir, ça va être en tout cas pour le spectateur neutre, ça va être très 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 excitant.
Salut Steve, tu vas bien?
Oui, bonjour Alex.
Dis, je lis sur les réseaux, beaucoup de gens disent que l'Union était arrogante. Est-ce que tu as trouvé ça aussi?
Non, je ne trouvais pas arrogant, mais ça fait longtemps que je trouve cette saison que pas mal de gens trouvent l'Union plus arrogante, parce que l'Union ne se présente plus comme un oiseau pour le chat. Et c'est peut-être ce qui a fait la différence, je trouve, entre l'Union phase classique cette saison et les deux dernières saisons, c'est que clairement, ils sont là au niveau du combat physique, ils sont là lorsqu'il faut faire des petits sales coups, hein, les petits coups qui font qu'une équipe peut des fois avoir l'ascendant sur l'autre. Ce n'est plus le gentil Union que tout le monde aimait finalement jouer contre. Là maintenant, ce sont des véritables compétiteurs. Et donc, c'est vrai qu'ils font un certain nombre de petits coups. Et c'était le cas aussi aujourd'hui. Alors, il y a aussi un personnage qui cristallise pas mal d'animosité, c'est Burgess, de par son style.
Qui est exclu, on le rappelle, qui prend un carton rouge dans ce match.
Et il prend un carton rouge totalement ridicule et évitable de frustration à la dernière minute, puisque sur une rentrée en touche, au lieu de la faire normalement, il la met sur la tête du joueur contre qui il était en duel peu de temps avant la rentrée en touche. Et donc, c'était une carte rouge parfaitement méritée. Et pour moi, et on va peut-être y revenir, ça montre la fébrilité, la nervosité, je dirais plus que l'arrogance, mais la nervosité des unionistes. C'était très marquant, c'était à craindre. Et bien, on y est clairement. Ils ont compris qu'ils n'étaient pas le chasseur cette année, mais le chassé, que finalement, ils avaient potentiellement tout à perdre. Et ça s'est fort ressenti lors de cette première journée.
Pour revenir sur ce carton rouge, Steve, nous on n'a pas pu le voir, mais bon, on a vu des explications et tu nous en as donné aussi. Avec ce genre de comportement, Burgess va prendre plus d'un match, c'est sûr et certain.
Oh, je ne suis pas totalement certain, parce que c'était clairement, la carte rouge était totalement méritée. Non, c'était pas quelque chose qui était destiné à faire mal à l'adversaire, c'était vraiment de la frustration. Donc ça dépend comment ce geste va être interprété. Mais ce n'est vraiment pas intelligent. Ce n'est pas intelligent parce que, bon, en termes d'exemplarité, ce n'est pas intelligent parce que l'Union n'avait pas besoin de se retrouver à 10, et ce n'est pas du tout intelligent parce que, moi, j'ai toujours dit que si l'Union devait ne pas être champion, ce serait pour une raison, ce serait pour le fait qu'ils ne se sont pas renforcés en défense, et que clairement, ils ont des problèmes au niveau de la défense, il n'y a pas de profondeur, il y a trois défenseurs valides, et il n'y en a aucun qui est extrêmement rapide, donc ils se font, et c'était le cas lors du but, on y reviendra peut-être, ils se font prendre dans le dos assez régulièrement par des équipes adverses, mais ce n'est vraiment pas malin de la part de Borges, parce que alors que l'Union n'a déjà plus de défenseurs valides, a dû faire appel à Van Hout pour jouer en défense de nouveau, ce qui à la fois, ce n'est pas sa place, et en plus, ça le prive d'une position où il est exceptionnellement bon et clé au milieu de terrain. Ben là, ils vont se retrouver la semaine prochaine, avec de nouveau, au moins la semaine prochaine, avec de nouveau un défenseur de moins, alors qu'ils n'en ont plus.
Ouais, comme tu le disais, de nouveau, ça a été criant, ce manque de vitesse en défense.
Ben oui, le goal, en fait, le goal est celui-là. Hein, c'est un goal assez. L'Union a été très bon cette année, mais a encaissé beaucoup plus de goals que les autres années. Mmh. Pour la bonne et simple raison, bah, c'est vrai qu'ils jouent très offensivement, donc ils ont déjà un jeu à risque. Et puis surtout, la défense, qui n'est pas mauvaise, se fait très souvent prendre tout de même sur un ballon dans son dos. Et Burgess, ce n'est pas la première fois qu'il joue dans l'axe, ou Sykes, ou d'autres, se font prendre souvent dans des ballons dans leur dos. Et là, c'est ce qui s'est passé lors du premier goal. C'est Sykes qui s'est fait prendre un ballon dans son dos. Et là, il y a eu une chose un peu plus inhabituelle, c'est une erreur de Maurice, c'est que Maurice a tout le temps de sortir et de la prendre, et qu'il a, il a trois secondes d'hésitation. Et ces trois secondes d'hésitation fait que l'attaquant peut arriver le premier sur le ballon et ainsi le crucifier. La phase est classique dans le sens où la défense trop lente de l'Union se fait prendre dans le dos. La réalisation est un peu moins classique puisque cette fois, c'est une erreur de Maurice qui amène le goal. Mmh. Et ça, c'est quand même relativement inhabituel sur toute la saison. Je me rappelle qu'il a fait une autre erreur, mais je ne vois pas d'autres buts qu'il a concédés de par une faute qu'il a commise.
Alors, on va passer au sujet qui fâche avec toi, Steve. on t'attendait, on mourait d'impatience d'arriver à ce match-là. C'était le match de ce week-end du Standard, défaite 5 buts à 1 face à la Gantoise. Le Standard qui va finir les play-offs sans enjeu, sans rien. Plus que 9 matchs, titre la DH, c'est ton sentiment?
Oui, je pense que le Standard est déjà... En fait, la saison du Standard a été faite et c'est très triste à dire à partir du moment où ils se sont sauvés et où ils ne descendent pas. C'est inimaginable de le dire, c'est triste pour moi en tout cas de le penser, mais c'est le constat que je fais. L'enjeu pour le Standard, c'était très vite de ne pas descendre. Et ils ont réussi l'enjeu et en fait, il y a tout à reconstruire, tout à construire même, vraiment de la cave au grenier. Il y a un chantier qui est phénoménal. Alors ils s'étaient dit si on fait des bons playoffs, hein, idéalement on pourrait accrocher peut-être une place européenne, ce qui permettrait de faire venir des joueurs, hein, parce que c'est évidemment l'enjeu lorsqu'on va construire. On sait que la plupart de ces joueurs sont de passage, ils n'auront certainement pas ça. Et donc la question va se poser comme elle se pose depuis que c'était là. C'est quels joueurs on va avoir et pour quelle ambition et quels sont les moyens que l'on va mettre. Mais la fin de saison va être longue, clairement, parce que le Standard n'a rien à gagner, rien à perdre. Moi, je serais tenté en tant que supporter de me dire que ça doit être une... Je ne dis pas qu'il faut faire des tests, parce que j'ai entendu beaucoup de gens qui disaient oui, mais il faut faire des tests pour la saison prochaine. On sait bien que tout va complètement encore changer la saison prochaine. Je pense qu'il faut jouer crânement sa chance tous les matchs pour essayer de redorer un blason qui est définitivement, en tout cas, très, très, très pâle ces dernières années et qui n'a encore pâli cette année. Je pense qu'il faut n'avoir rien à perdre et essayer de se donner du plaisir, essayer de gagner des matchs, se rappeler que le Standard est un club qui, lorsqu'il monte sur le terrain, c'est en principe pour gagner. Et je pense que c'est le seul enjeu qui va rester lors de ces derniers matchs, malheureusement.
Et tu parles de l'année prochaine avec ou sans Ivan Leko?
Moi, j'aurais tendance à prendre avec Ivan Leko. Ivan Leko n'est absolument responsable de rien. Je suis tout de même un peu effaré par sa com, puisque sa com est quand même une com extrêmement à l'attaque, défaitiste. Et je n'arrive pas à voir exactement qui il vise par ça, parce que j'ai l'impression qu'on peut viser tout le monde. Donc, je ne sais pas exactement s'il identifie quelque chose ou quelqu'un. quelqu'un, un joueur, un membre de la direction. En tout cas, il y a une cope extrêmement défaitiste, mais je trouve que c'est un entraîneur qui a énormément de talent, et je ne suis pas certain que le Standard soit capable d'attirer beaucoup d'entraîneurs à ce stade qui ont beaucoup de talent. Et donc, gardons-le et donnons-lui sa chance pour l'année prochaine, parce que là, voilà, il n'a eu absolument aucune chance. Et je rêve évidemment d'un moment où l'ECO pourra intervenir avec le directeur sportif pour essayer et avec le CEO Pierre Loc pour essayer de se dire ben voilà ce que j'ai besoin, voilà l'ambition, qu'est-ce qu'on peut mettre sur la table pour essayer justement de mettre sur pied un jeu d'échecs un certain nombre de joueurs qui me permettront de jouer dans le système que j'envisage pour le Standard. Et là on lui aura donné vraiment sa chance. On a la chance d'avoir un entraîneur talentueux. Il n'y a pas de talent énormément sur le terrain. Ben voilà, si on lui donne sa chance, et je trouve qu'il faudrait le faire pour une deuxième saison, avec éventuellement le fait qu'il ait pu mettre sa patte, finalement, sur la tactique et sur la stratégie depuis le début de la saison, ben on n'aurait pas grand-chose à perdre, parce que de toute façon, on ne s'attend à rien gagner.
C'est peut-être un coin de ciel bleu, cette potentielle présence d'Ivan Lecco l'année prochaine.
Bah, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'éclaircies, hein. C'est un peu comme l'hiver qu'on a eu en Belgique. Donc je crois que le supporter du Standard a une tendance au réalisme, mais une tendance à l'éternel optimisme. Hein. Vous savez, j'ai toujours dit lorsque j'étais sur antenne, et c'est vrai, à ce point, il suffit de deux matchs et ça y est, on est européen, on voit le titre, pour la Ligue des Champions. Il suffit de pas grand-chose, une étincelle, donc on se raccroche à ce coin de ciel bleu. Et ce coin de ciel bleu, c'est il y a quelques jeunes qui sont très bons, il y a quelques joueurs dont on sait qu'ils pourraient rester. Et puis il y a quand même Pierre Loc qui est quelqu'un de très très bien. Hein. C'est quelqu'un qui a fait tout, qui a commencé quasiment sa vie professionnelle au Standard, qui a fait quelqu'un de très intelligent, qui a fait toutes ses classes, qui aime le club. Et donc je me dis aussi que le fait qu'il soit là et qu'il reste là, c'est parce que on y croit lui-même au projet. Ça me rassure en certaine façon. Et s'il y a un très bon entraîneur, j'en serai d'autant plus content, mais ce n'est que la base, parce qu'après, il faut assurer l'arrière. Et ce qui me rassure peut-être que si l'écho reste, c'est qu'il mettra cette pression pour avoir ce qu'il a envie, parce qu'il sait qu'il sera jugé sur le bilan d'une équipe qu'il aura créée et formée. Et donc là, je pense qu'il y a quelque chose qui est en tout cas intéressant, même si les ambitions du Standard l'année prochaine seront forcément limitées. Hein. Ce sera de vivre une saison, je pense, un peu tranquille et de tâter le plus près possible de la deuxième partie de tableau vers le top 6 sans vraiment oser dire qu'on espère être dans le top 6, parce que là, on en est vraiment trop loin.
Ouais, ouais, je n'irai pas jusque-là si ça ne te dérange pas. Avant que tu arrives, depuis 20h, on a beaucoup parlé d'Anderlecht. Qu'est-ce que tu en as pensé ce week-end, toi?
Mais je pense qu'Anderlecht était au niveau de comme il est depuis le début de la saison, et surtout cette deuxième partie de saison, c'est-à-dire que Anderlecht, honnêtement, a la meilleure équipe que j'ai vue depuis ces 10 dernières années. Je ne parle pas au niveau du championnat, mais la meilleure équipe d'Anderlecht. Vous allez me dire que ce n'est pas tellement compliqué, vu qu'il y a quand même, c'était très décevant les dernières années, mais cette année, ils ont mis les moyens, il y a de la qualité. Par contre, ce qui est très marquant, c'est que Anderlecht ne produit pas de jeu. Vraiment, ne produit pas de jeu avec tous les talents qu'ils ont. Ils ont vraiment toujours eu, je trouve en tout cas, et je ne mettrai pas du tout ça sur l'arbitrage, mais vraiment eu énormément de chance de gagner des matchs auxquels on ne les voyait pas du tout émerger. Et clairement, on dit que les fans d'Anderlecht sont fans de beaux jeux, ils ne sont pas gâtés du tout, du tout, du tout. Par contre, ce qui était impressionnant chez Anderlecht, c'est la régularité. Parce que si on regarde l'Union fait un fait, ils viennent d'arrêter 24 matchs sans défaite, il y a eu quelques nuls, mais donc ils ont énormément de points. Mais Anderlecht a un bilan chiffré qui est formidable aussi. Hein. Donc je trouve ce qui m'impressionne dans cette équipe d'Anderlecht, c'est sans bien jouer, sans être particulièrement impressionnant, dominateur, c'est que finalement ils ont un bilan chiffré qui est assez exceptionnel. Et on a l'impression que quoi qu'il arrive dans un match, ils vont finir par le gagner. Alors il y a l'exception Courtrai là à la fin du championnat, mais c'est vraiment une exception parce que ils ont vraiment réussi. Je pense au match contre Bruges hein, où ils perdent encore 0-1 à la 80e, et puis ils marquent un goal et puis ce deuxième goal à la 95e. Il y a vraiment ce sentiment que ils vont réussir, peu importe la physionomie du match, à avoir un bilan chiffré. Et finalement, c'est l'équipe qui, n'étant pas la plus spectaculaire, est la plus régulière. Et moi, personnellement, si on me demande mon sentiment, je pense déjà depuis quelques semaines qu'ils ont des fortes chances d'être champions cette année. Parce que cette régularité et les individualités dont ils disposent, je pense à Dolberg notamment, Léoni quand il est très bon, et maintenant Hazard, je trouve, qui a donné quelque chose à cette équipe. Hein. On voit, il y a un Dalek avant et un Dalek maintenant avec Hazard. Mais c'est que je pense que s'ils maintiennent cette régularité, ils seront champions.
Mais écoute, pour terminer, Steve, je te donne déjà un scoop. La semaine prochaine, Anderlecht perd à Bruges.
Bah, je le souhaite pour les supporters de Bruges, parce qu'honnêtement, ils mangent quand même un club que j'aime plutôt bien. Ils mangent leur pain noir. Et puis, je l'espère aussi pour le championnat, finalement, parce qu'on a envie que, quitte à ce qu'il y ait les playoffs, à ce que ce soit plutôt spectaculaire et que chacun perde un peu de points, ce qui permettra de maintenir le suspense le plus longtemps possible. Et puis, je crois que Bruges, il y a une question d'orgueil. Hein.
Tout à fait.
Il y a une question d'orgueil. Ça le prouve. Hein. Ils ont égalisé très tard dans le match cet après-midi. Je pense qu'ils vont, en tout cas, leur saison n'est pas une grande réussite et ils vont tout faire pour avoir un sursaut d'orgueil. Mais comme je dis, je suis impressionné par la régularité de cette équipe d'Anderlecht sans être impressionnant. Je vous ai pas écouté, donc je ne sais pas si ce sentiment est partagé. Mais voilà, il y a peu de matchs où ils ont été flamboyants, mais il y a énormément de matchs qu'ils ont gagnés cette année et ils vont encore gagner beaucoup.
Et c'est vrai qu'ils ont, autant on en a parlé dans cette émission en disant que l'Union avait une tête de champion cette année, Anderlecht là aussi. Bah, Steve, merci beaucoup d'être passé dans l'émission et puis on espère te revoir bientôt avec peut-être une victoire du Standard. Je ne sais pas si c'est encore possible.
Eh bien, écoutez, je suis là la semaine prochaine, c'est le Standard, gars. Encore plus sérieusement. je pense que
l'année prochaine.
J'ai dit qu'on était beaucoup plus ambitieux que ça. Et je crois vraiment que je ne suis pas d'accord avec tous les commentateurs qui vous disent que l'année du Standard est terminée. Je crois qu'il y a justement, ils n'ont plus rien à perdre. On voit qu'ils peuvent s'effondrer comme ils se sont effondrés contre la Gantoise, parce qu'il s'agit d'un effondrement en deuxième mi-temps, mais ils sont aussi capables de montrer, et ils l'ont montré dans certaines confrontations, qu'il y avait un peu d'orgueil. Et ils l'ont de temps en temps. Et je suis sûr qu'ils vont l'avoir encore dans cette période.
Bah écoute, merci beaucoup Steve, et puis à bientôt. Salut, bonne soirée.
Plaisir, bonne émission, au revoir.
Ciao. Voilà, merci à Steve d'avoir été avec nous ce soir dans On joue la prolongation. Il est 20h52 minutes. On arrive tout proche de la fin de cette émission et c'est l'heure de ta minute, Alex. La minute Sportimize ce soir sur Radio Judaïka et on part aux États-Unis.
Tout à fait, on va aller dans la capitale du sport des États-Unis 2024 et ce n'est pas Washington et ce n'est pas Las Vegas qui même essaye de s'approprier de plus en plus de sport, d'équipes sportives avec Oakland qui a été franchisé et qui déménage du côté de Las Vegas aussi, mais bizarrement c'est Kansas, la ville dans l'état du Missouri. Une ville qui n'est pas très grande, parce que c'est la moitié de Bruxelles, et même un tout petit peu moins. Et pourtant, ils ont réussi à gagner le Super Bowl. Donc les Chiefs ont battu San Francisco. Mais il n'y a pas que ça. Les Chiefs se nomment champions du monde désormais. Donc ça, en NFL, c'est la mondialisation qui parle, avec des matchs NFL au Brésil et en Espagne très prochainement. Mais à Kansas, il y a également une équipe féminine qui évolue dans la National Women's Soccer League, donc l'équivalent de la MLS pour femmes. Et la particularité de cette équipe, il y a 10 jours, elles ont inauguré leur nouveau stade. Et ce qu'il y a de spécial à ça, c'est que c'est un nouveau stade à Kansas qui est dédié 100% au football féminin. Premier stade aux États-Unis qui est construit spécialement pour des femmes. Et donc, elles l'ont inauguré. Il y avait plus de 12 000 personnes dans ce joli stade, typiquement américain, de soccer. Et elles affrontaient Portland. Elles ont gagné 5-4, 5 buteuses différentes. Et c'était la grande fête, on a envie de dire. Et c'est la grande fête un peu partout, parce qu'on sait que ce soit en Belgique, que ce soit en France. Généralement, les équipes féminines jouent sur un terrain d'entraînement, dans un plus petit stade à côté, annexe. Et ce qu'il y a de positif pour les femmes aux États-Unis, elles ont des stades. Ça se construit à San Diego également. Et en Angleterre, on a vu dernièrement, Arsenal a accueilli l'équipe féminine dans le Emirates Stadium, et donc on attend encore dans certains pays où le foot féminin est émergent, un stade 100% féminin, mais aux États-Unis c'est déjà fait, donc chapeau à eux, et bientôt par ici, j'ai envie de dire.
Et c'est très c'est très comique, enfin comique. Tu parles de Kansas City et donc de cette équipe des Chiefs. En fait, ils ont annoncé et c'est la première fois de l'histoire que ça arrive. Ils ont annoncé l'arrivée de Louis Rhys-Zamit. Alors Louis Rhys-Zamit, en fait, c'est un ailier international de rugby gallois. Et en fait, il va être le premier à quitter le monde du rugby professionnel pour rejoindre le monde du rugby du football américain. Et ça a fait un peu une, ça a fait un, enfin ça 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 en beaucoup de gens en ont parlé parce que c'est quand même relativement bien, enfin c'est juste un changement de port complet quoi, donc voilà.
Et ce n'est pas un poisson d'avril.
Et ce n'est pas un poisson d'avril pour le coup. Et on arrive vite fait à la fin. On parlait tout à l'heure des maillots de la Belgique et puis d'un peu tous les pays. La Fédération allemande de football et la société Adidas ont annoncé qu'elles n'utiliseraient pas le numéro 44 dans le nouveau maillot de l'équipe nationale allemande après que des fans ont en fait remarqué que la graphie rappelait le symbole SS. Adidas a annoncé que le maillot avec ce numéro ne serait pas mis en vente. Et puis alors, en plus du retrait du numéro 44, l'entreprise a aussi fait savoir qu'il ne sera pas possible depuis son site web ou celui de la Fédération allemande de faire floquer des maillots avec des noms tels que Hitler ou Führer. Les médias allemands ont toutefois rapporté qu'imprimer des noms d'autres anciens nazis comme Goebbels ou Göring ne seront pas interdits. Donc voilà, ça existe des gens qui font ça. Et merci Adidas et merci à l'Allemagne d'interdire ce genre d'ineptie.
Tu as peut-être vu quand j'étais à Marseille Ajax l'autre fois, tu avais aussi deux personnes qui avaient un flocage très très particulier. Donc le flocage, on peut vraiment presque faire ce qu'on veut avec. Donc avec un tout petit peu d'imagination, je pense que les supporters peuvent passer outre cette connerie. Mm-hmm. Mais voilà, parfois ici à Marseille, c'était Zigou Net 66 et 9. Ils étaient l'un à côté de l'autre, donc c'était bien pensé, c'était très rigolo. Je vois pas l'intérêt de payer 140 balles pour ça, mais ça c'est encore un autre problème. Mais oui, la typographie Adidas, et d'ailleurs pour rajouter à ça, Adidas et l'Allemagne, c'est fini en 2027, parce que Nike reprendra.
Contrat record de Nike.
Tout à fait. Nike reprend et bouffe dans tous les sens du terme son adversaire principal, mais chez lui quoi, parce que l'Allemagne et Adidas, ça ne forme qu'un.
C'est quand même, ça va faire bizarre de voir l'Allemagne jouer en Nike, parce que bon bah oui, Allemagne et Adidas, c'est la même chose quoi, quasi. Mm-hmm. Allez, il est 20h58 sur Radio Judaïka, c'est l'heure de la fin. Alex, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir pour cette émission. On s'est régalé, on a fait un petit tour de tout le foot international et national de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine.
On se retrouve la semaine prochaine, bonne semaine guys.
Merci à toi aussi. C'est donc la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi prochain, même heure, à partir de 20h. La suite des programmes sur Radio Judaïka, c'est de la musique à partir de maintenant. Et à partir de maintenant, c'est le titre de la musique qui arrive maintenant. Vianney et Renaud, merci à tous de nous avoir suivis. Passez une bonne soirée sur les ondes de Radio Judaïka. Le retour de l'info, c'est dès demain, 7h dans la matinale, en compagnie de Lise Benkemoun et Didier Cohn. Merci à tous, bonne soirée, au revoir.